Hello, c'est Alexis et nous sommes le 25 février 2025. Et aujourd'hui, trois petites news que je vous partage. Un épisode qui va être court, je pense, à moins que je parte encore en vrille sur plein de sujets, mais je ne pense pas, parce que c'est pas des grosses news. Première news dont on va parler, c'est évidemment, vous n'avez pas pu le rater, la nouvelle version du modèle Claude, Sonnet 3.7. Donc 3.6 a été sauté, pas assez performant peut-être. Et donc on est à 3.7. Et donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a une petite mise à jour sur Bolt. Et puis aussi un truc que j'ai vu passer de Perplexity que j'ai trouvé intéressant, dont on parlera un peu après. Alors, première news. Donc sur Claude, donc, ils ont annoncé, donc Anthropic, la société qui édite le LLM Claude. Donc Claude, il y a plusieurs versions. Il y a trois branches principales de versions. Le petit modèle Haiku, celui qui est le plus rapide, qui est le moins coûteux. Le modèle Sonnet, qui est le modèle intermédiaire en réalité. Et la branche Opus, qui est le plus gros modèle. Et en fait, ces trois modèles évoluent avec des numéros de versions différentes. Et donc, par exemple, Opus, on en est à la version 3. Depuis déjà un an à peu près. Opus, moi je l'ai beaucoup testé, c'est un modèle que je trouve très intéressant sur la partie textuelle, mais bon, qui est aujourd'hui peut-être plus vraiment pertinent. Ensuite, il y a Sonnet, qui est donc à la version maintenant 3.7, qui est leur modèle le plus polyvalent, qui est rapide, qui est le meilleur rapport qualité-prix, qui est très bon en code, vraiment d'un avis général, hein, déjà depuis la version 3.5, et je reviendrai sur cette version 3.7. Et le Haiku, il est à la version 3.5 et il est, je ne l'utilise jamais, mais il est censé être assez performant. Il est typiquement intéressant à utiliser dans le cadre de vos automatisations. Si vous voulez analyser des emails, des choses comme ça, des choses que vous voulez faire un peu fréquemment, c'est un petit modèle qui peut être très performant pour ça et avec des coûts quand même limités, même s'il est un petit peu plus cher que GPT-4o mini, il me semble, et 4o mini est aussi vraiment pas mal. Mais donc là, on est sur la branche du milieu, donc le modèle le plus polyvalent. Et donc, ils ont sorti 3.7. Et en fait, ils ont sorti deux choses. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est qu'ils ont sorti donc, le nouveau modèle, 3.7, donc issu d'un nouvel entraînement, etc. Et ensuite, pour ce modèle-là, ils lui ont ajouté une fonctionnalité supplémentaire qui est la capacité de raisonner plus longuement. Raisonner dans le sens faire preuve d'une réflexion avant de donner sa réponse. C'est le fonctionnement des modèles de la famille O de ChatGPT et de la famille R de DeepSeek, DeepSeek R1, ChatGPT O1, O3, O3 mini. Voilà. Et donc, bon, voilà, ils se sont mis à niveau. Ils n'ont pas fait une grosse, énorme news. Il y a un article que je vous mettrai dans les ressources qui est très intéressant, où ils annoncent deux choses. Ils annoncent Sonnet 3.7 et Claude Code. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il annonce ces choses-là en même temps. Je reviendrai sur ce qu'est Claude Code. Mais quand même, Sonnet 3.5 est vraiment le modèle qui a fait basculer un petit peu les choses au niveau de la génération de code. Il y a eu vraiment, depuis l'été dernier, moi vraiment c'est ça qui m'a fait basculer. C'est une chose, vraiment la qualité du code généré. Vous pouvez voir, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube où vraiment j'étais stupéfait par les résultats. Donc franchement, c'est, voilà. Et donc, ils continuent à itérer là-dessus, sur leurs forces. Forcément, il faut capitaliser sur ses forces, même si c'est un modèle qui est généraliste, qui peut faire d'autres choses. Et donc, le Sonnet 3.7, bah, voilà, il fonctionne très bien. Donc, c'est une petite amélioration du Sonnet 3.5. Mais combiné avec la capacité de raisonnement, et bah, on arrive à quelque chose quand même d'intéressant. C'est disponible aussi à travers l'API, avec, à travers l'API, un usage un peu plus avancé où vous pouvez carrément lui dire combien de tokens il peut utiliser pour le raisonnement, etc. Bon, ça, c'est un petit peu technique, peut-être, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, je l'ai déjà dit des fois comme ça au détour de certains podcasts et tout, et je compte vraiment faire une vidéo YouTube pour expliquer ça, c'est que la partie raisonnement, c'est vraiment un artefact d'ingénierie, pour reprendre l'expression du fondateur de Gladia. Donc ça vient par-dessus. Donc là, ils ont bien annoncé, c'est des choses différentes. Il y a le modèle 3.7, et puis vous pouvez, pour ce modèle-là, activer le raisonnement qui va augmenter ses capacités. Et il précise que c'est principalement sur les tâches mathématiques et sur le code. De la même manière, d'ailleurs, que quand vous regardez O3 mini, il vous dit que c'est particulièrement dans ChatGPT adapté pour le code, les sciences, les maths, etc. Voilà. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai publiée ce matin. J'ai testé tout ça dans ma matinale et c'était assez étonnant parce que oui, au niveau du code, c'est top. C'est pas non plus, je veux dire, c'était déjà bien avant, donc voilà. Mais par contre, au niveau des maths, bah, j'étais assez surpris parce que je pense que je lui ai donné des exercices de maths assez avancés et il y a réussi sans problème. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les modèles 4O et Sonnet 3.5 y arrivaient tout aussi bien, sans raisonnement particulier. Donc voilà, je ne sais pas quoi en dire. Ça progresse. C'est encore une fois, hein, ça pour moi, c'est encore plus que jamais une confirmation que les LLM atteignent un plateau. Voilà, je le répète, je continuerai à le répéter jusqu'à ce que vraiment... Ou alors, c'est peut-être aussi dans nos usages à nous, parce que j'ai pas de doute que si vous êtes un scientifique, peut-être que ça peut vous aider. Si vous faites vraiment de la recherche, mais nous, dans nos usages, je pense vraiment qu'on est à un plateau et qu'on ne verra pas de différence vraiment fondamentale dans nos usages les plus quotidiens. Si vous voyez des usages dans lesquels vous voyez des progrès, vraiment dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Moi, l'usage sur lequel je peux plus facilement comparer les progrès, c'est sur le code, puisque c'est maintenant ce que j'utilise très très fréquemment, et je constate effectivement un petit progrès. D'ailleurs, dans mon test, ce qui est intéressant dans mon test de ce matin, d'ailleurs, c'est que le résultat du test que j'ai fait était mieux sans le raisonnement qu'avec. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, le raisonnement, ça vient par-dessus. Ce qui est important, c'est le modèle. Et ce qui va être intéressant, c'est que utiliser donc là ce Claude 3.7, donc qui est vraiment très intéressant, et combiné avec des outils comme Cursor, comme Bolt, etc., qui eux-mêmes rajoutent une couche d'ingénierie par-dessus, on va arriver sur des choses quand même très très impressionnantes, je pense, au niveau de la génération de code, la création d'applications, d'automatisation. Et c'est ça, on va continuer à vraiment l'investiguer à fond sur la chaîne YouTube et dans les usages et tout, quoi. Voilà, bon, dans leur article, ils partagent les benchmarks et tout. Alors oui, ils sont meilleurs que les autres. Bon, franchement, on ne sait plus quoi penser de ces benchmarks. Là, j'ai vu une news qui m'a fait un peu sourire, c'est que bon, apparemment, peut-être que xAI aurait triché sur les benchmarks de Grok. Et donc, franchement, moi, je vois que ce qui m'intéresse. Voilà, je me fierai que vraiment à mes usages. Et quand j'ai l'impression que ça progresse, eh ben je le dirai. Alors, petite news supplémentaire que je n'avais pas testée ce matin parce que je n'y ai pas accès, mais je me suis inscrit sur la waiting list, c'est Claude Code. Donc, ils ont sorti... Alors, ce n'est pas un équivalent de Cursor parce que ce n'est pas un environnement de développement, c'est un agent qu'on utilise un peu en ligne de commande, mais qui est la possibilité d'écrire du code, etc., par rapport avec de l'IA, enfin voilà, par Claude, sans utiliser justement Cursor, Bolt, etc. C'est leur propre agent. Bon, c'est vraiment que en mode pour l'instant recherche expérimentale, donc ils ne l'ont pas partagé. Mais bon, j'espère, je suis curieux de voir. On verra s'ils ont réussi à faire quelque chose de mieux que Cursor, etc. et Windsurf et tout. Mais bon, déjà, tous ces outils-là sont quand même très très intéressants. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire. Les deux autres petites news, donc il y avait une news donc, de chez Bolt, justement. Bolt, ils ont amélioré un petit peu leur interface, et donc maintenant, on peut cibler spécifiquement ce que l'on veut modifier dans Bolt. Donc Bolt, vous le savez si vous m'écoutez, hein, et Bolt, ça permet de créer des applications. Et donc quand vous créez une application, donc admettons vous faites une boîte mail cyberpunk, hein, comme je fais tout le temps, et ben vous avez plein d'éléments. Donc on avait vu que Lovable maintenant permet de modifier des éléments sans passer par la génération de code, mais juste en sélectionnant un élément et en modifiant les paramètres, eh ben c'est pas ça qu'ils ont fait Bolt, mais au moins ils ont dit on peut sélectionner un élément dans l'interface, par exemple la barre de navigation de ma boîte mail, et je peux dire faire un prompt qui cible spécifiquement cette partie-là. Quel est l'intérêt? Évidemment, économiser des tokens et avoir des meilleurs résultats, parce que sinon avant il fallait lui dire dans la sidebar fais ci, mais peut-être qu'il allait mal comprendre ce que c'était la sidebar, et donc ça c'est intéressant. Et donc voilà, Bolt va mieux voir en fait les interfaces, va mieux comprendre les éléments et pour pouvoir mieux le guider. Voilà, et la dernière news que je voulais partager, mais qui n'est pas vraiment une news, mais qui est sortie il y a quelques temps, c'est que Perplexity, donc vous le savez, donc l'outil qui permet de faire, qui est un moteur de recherche basé sur des LLM, qui est très intéressant, donc c'était le sujet d'ailleurs de ma vidéo d'aujourd'hui, ils ont un modèle, donc ils ont aussi leur propre modèle, ils ont un modèle qui s'appelle Sonar, qui est connecté à Internet, mais et qu'on peut utiliser par API. et mais qui se base sur des modèles open source, en l'occurrence sur Llama et sur un autre, je crois, j'ai oublié déjà, mais voilà, qu'ils ont personnalisé, ils ont fait leur propre modèle qui s'appelle Sonar. Mais ils ont fait un autre truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont fait une modification, ils ont fait un réentraînement du modèle R1 de comment ça s'appelle, la société DeepSeek, donc le fameux modèle chinois dont on a beaucoup parlé. Ils en ont fait un réentraînement pour enlever la censure. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que, bah, quand même, ça nous montre encore une fois que l'open source, c'est vraiment la voie, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est publié en open source permet d'être, de capitaliser dessus. Et donc, on l'a dit, hein, on le sait, évidemment, DeepSeek, ils ont fait des progrès intéressants. Et donc, leur modèle R1 est très intéressant. Il est gratuit, possible en open source. Il a une forme de censure inhérente puisque c'est en Chine, il y a de la censure, etc. Et ben, comme il est open source, on peut le réentraîner. C'est ce qu'a fait Perplexity. Et donc, vous avez un modèle qui bénéficie des performances d'R1 sans avoir les biais, a priori, de ce qu'ils ont dit, hein, de la version chinoise. Donc voilà. Et donc, en plus, bah, du coup, cette version-là, vous pouvez y accéder par leur serveur, donc hébergé aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est mieux des données hébergées aux États-Unis qu'en Chine? Je ne sais pas. Mais la Chine, ça inquiète beaucoup de gens, évidemment. À raison. Parce que, évidemment, on l'a déjà dit, hein, évidemment, on peut se douter que le gouvernement chinois peut accéder à ce qu'il veut à peu près sur les serveurs de n'importe quelle société chinoise. Mais il faut rappeler que, évidemment, c'est la même chose aux États-Unis. Ne soyez pas dupes, hein. Le Patriot Act et le Cloud Act et toutes ces choses-là font que, à tout moment, les États-Unis peuvent aller regarder ce qu'il y a sur les serveurs d'Amazon, de Google et compagnie. Donc, bon, voilà. Il faut jamais oublier ça. Donc, on se méfie de la Chine pour des raisons, je pense, un peu irrationnelles. Enfin, en tout cas, le fait qu'on s'en méfie plus par défaut, on va pas se mentir, il y a une forme de racisme un peu là-dedans aussi, hein. Le fait que tout ce qui est chinois soit tout de suite suspect, or qu'on se jette dans les outils américains. Bon, voilà, faisons preuve d'un petit peu de discernement. C'est bien aussi d'avoir des acteurs européens, on ne le répétera jamais assez. Et plus que jamais, plus que tout, plus que les questions de nationalité et de géopolitique, ce qui est important, c'est d'avoir de l'open source. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus. Voilà, donc c'était mes trois news pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Probablement, ça dépendra déjà de l'actu. On a un nouvel épisode de ce qui va probablement s'appeler le AI Game, donc mon émission mensuelle à mon ami Lucien, voilà, que j'enregistre vendredi, je serai le jour où j'arrive d'ailleurs à Séoul. Et puis voilà, après, donc ça dépendra, mais donc je serai en vadrouille. La semaine prochaine, il y aura peut-être un petit ralentissement parce que j'ai envie de prendre un petit peu des vacances aussi mentalement et garder un petit peu mon intérêt pour tous ces sujets. Mais on verra, parce qu'en même temps, je suis tellement passionné, j'adore tellement faire des podcasts. C'est un plaisir de parler comme ça 15 minutes tout seul dans le micro. Donc voilà. Bon, écoutez, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas, je le dis pas assez souvent d'ailleurs, mais n'hésitez pas à aller mettre des avis sur les plateformes. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter sur le Slack de NoCode France, ça me fera encore plus plaisir. Et puis surtout, ça fait avancer la discussion. Je le dis jamais assez, hein, mais moi, je fais ces podcasts aussi pour ouvrir les discussions et avoir des avis, des fois contradictoires, me faire progresser moi-même, parce que je ne dis pas que des choses intelligentes, j'essaie d'en dire un maximum, mais en tout cas, voilà, des fois je me trompe, puis des fois j'ai envie d'évoluer un petit peu. Donc voilà, on a la chance que le Slack de NoCode France héberge mon canal, Média, IAX NoCode, et puis voilà, vous pouvez toujours m'écrire en DM si vous voulez. Et puis abonnez-vous, allez, à bientôt. Et puis surtout, même, je dirais, pour prendre la formule de Génération de Yourself, n'hésitez pas à envoyer cet épisode, si ça vous a plu, cet épisode et ce podcast, à plusieurs de vos contacts qui pourraient aimer. Allez, à bientôt.